mots pour le dire, une émission présentée par Redouane Esmenti avec Michel Théron.
Ernest Willet disait « Les innovateurs sont presque toujours des persécutés. En religion, ce sont des hérétiques. En philosophie, des crânes fêlés. En science, des gens qui parlent au diable. En politique, généralement des imbéciles, parfois des idoles. » Ensuite, une deuxième citation, celle de Pierre Teilhard de Chardin, qui disait « Tous ceux qui veulent dire une vérité avant son heure risquent de se retrouver hérétiques. » Et je terminerai par Ernest Bloch qui disait « Le meilleur dans la religion, c'est qu'elle engendre des hérétiques. » Bonjour à tous, où que vous soyez, sur l'agglomération Montpellier-Rennes, le 91 MHz FM+, ou l'agglomération Nîmois 103.1. Bienvenue au petit lexique des hérésies chrétiennes avec Michel Théron. Bonjour Michel.
Bonjour Edouane, bonjour à tous.
Voilà, donc le meilleur dans la religion, c'est qu'elle engendre des hérétiques, et c'est ce qu'on voit à travers votre livre, Petit lexique des hérésies chrétiennes, donc qui est paru aux éditions Albin Michel, et depuis on ne cesse de passer d'hérésie en hérésie. Peut-être qu'un jour on sera brûlé pour avoir fait la promotion de toutes ces hérésies, qui sait. Mais enfin, je pense qu'encore en démocratie, entre la séparation de l'Église et de l'État, il nous est permis de faire part de toutes les sensibilités. Et aujourd'hui, vous nous proposez trois sensibilités théologiques, religieuses, spirituelles du christianisme, qui étaient pour les certaines considérées comme des hérésies, pour certaines encore qui marquent le christianisme aujourd'hui. Je pense en particulier aux nestoriens, les nazaréens et les mythistes, et on commencera par les mythistes. Est-ce que c'est un mythe, les mythistes ?
Voilà, alors nous suivons donc l'ordre alphabétique, hein. Et s'agissant des mythistes, il faut savoir qu'il s'agit de tous ceux qui pensent que le christianisme n'est qu'une construction symbolique, ne renvoyant à aucune réalité effective, aucun événement ou aucun personnage réel de nature historique. Bref, c'est une construction purement mythologique. Alors cela peut surprendre les auditeurs, cela peut aussi les scandaliser, mais enfin, je vais développer ce point quand même. Par exemple, un homme comme Prosper Alfaric, A-L-F-A-R-I-C, qui vivait entre 1876 et 1955, était professeur d'histoire des religions à la faculté des lettres de Strasbourg. Et il a prononcé une conférence pour l'Union rationaliste, le 5 mars 1932, dont le titre était « Jésus a-t-il existé ?». Cette conférence lui a valu l'excommunication majeure de l'Église catholique en juillet 1933. Cet Alfaric avait poussé à l'extrême les travaux d'Alfred Loisy, d'abord, hein, nous avons déjà parlé de Loisy, puis de Charles Guignebert, qui était professeur d'histoire du christianisme à la Sorbonne et qui a écrit un ouvrage fondamental qui s'appelle « Jésus », qui est paru chez Albin Michel en 1933.
Alors je vois qu'Albin Michel continue dans l'hérésie, là.
Voilà, c'est un éditeur laïque, en principe, hein. Donc, Alfaric en était venu à conclure que Jésus ne fut qu'un personnage mythique, au même titre qu'Osiris, que Attis, que Mithra, que Dionysos Zagreus, que Héraclès, etc. Alors, Alfaric ne se réclamait même pas de l'évémérisme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'évémérisme, me direz-vous ? Eh bien, c'est une façon de penser selon laquelle tous les personnages divins du passé doivent être regardés comme des personnages qui furent d'abord des humains, qui furent bien sûr des êtres d'exception dans leur vie, mais qui furent ensuite divinisés par l'admiration des hommes, après leur mort donc. Hein. Alors, évémérisme renvoie au philosophe grec ancien qui s'appelait Évémère, et qui soutenait ce que je viens de dire. Hein. Les êtres humains sont divinisés post-mortem. Pour Alfaric, au contraire, il n'y avait aucune raison de croire à un Jésus historique. Tout son personnage, tout le corpus chrétien qui en dérivait, avec tous ses dogmes, n'était que mythe. Alors, dans la conférence que j'ai mentionnée, « Jésus a-t-il existé ?», Alfaric passe en revue les documents profanes ou non, c'est-à-dire finalement ces documents qui appartiennent au monde chrétien ou bien qui n'y appartiennent pas, documents qu'on allègue pour affirmer l'existence historique de Jésus. Alors on peut évidemment toujours révoquer en doute les documents chrétiens pour cause de partialité. Mais il y a quelques documents non chrétiens. Alors, il s'agit d'un passage des Antiquités juives et un autre de la guerre des Juifs de Flavius Joseph. On appelle ça le Testimonium Flavianum, le témoignage de Flavien, qui font mention effectivement d'un certain Jésus. Et Flavius Joseph étant un Juif, on peut évidemment faire crédit à son témoignage. Mais Alfaric prétend qu'il s'agit, dans ce Testimonium Flavianum, d'interpolations chrétiennes, qui ne seraient pas donc de la main de Flavius Joseph, mais ces interpolations chrétiennes seraient tout à fait étrangères à l'esprit de l'auteur, de Flavius Joseph. En second lieu, il s'agit d'un passage de Suétone dans la vie de Claude, qui fait mention d'un certain Crestus ou Christus, hein, et un autre, évidemment, que l'on cite toujours, un témoignage de Tacite, hein, dans le livre 15 des Annales, au chapitre 44, où Tacite mentionne un certain Christus, lorsque Néron, par exemple, met le feu à la ville de Rome, eh bien, il prétend que ce sont les chrétiens, justement, qui ont mis le feu. Et alors là, il y a une phrase de Tacite qui nous dit « Chrétien renvoie un certain Christus qui a été mis à mort sous Tibère, qui a subi un supplice infamant. » Voilà. Alors, selon Alfaric, ce nom de Crestus ou de Christus est un nom purement fonctionnel. Eh bien, il renverrait à un langage chrétien en voie de se répandre alors et ne supposerait pas forcément l'existence réelle d'un personnage historique. Alors, vous voyez donc que, parti par exemple de Renan, dont la vie de Jésus est d'orientation et de conclusion totalement évémériste, la critique textuelle d'inspiration rationaliste peut mener à l'atomisation et à la dissolution du personnage de Jésus lui-même et de toute la construction édifiée autour de lui. Les dogmes sont aussi, par conséquent, entièrement mythiques dans ce sens, la naissance virginale, la nouvelle parousie de Jésus-Christ, etc. Alors, sur cette fragilisation mythiste de la construction chrétienne, si c'est une fragilisation, ce dont je ne suis pas sûr, je m'expliquerai tout à l'heure là-dessus, on pourra lire, par exemple, un livre comme « La Genèse des dogmes chrétiens » qui est toujours paru chez Albin Michel en 1972 et que nous devons à Louis Rougier, R-O-U-G-I-E-R. Et plus près de nous, à un livre alors que je trouve assez maudit, puisqu'il est assez récent et on n'en a pas parlé. Il s'agit de « L'invention de Jésus » de Bernard Dubourg, D-U-B-O-U-R-G, qui est paru chez Gallimard dans la collection L'Infini, parution en deux volumes entre 1987 et 1989. C'est donc un livre sur lequel la presse a fait silence et qui est connu de peu de gens. Je suppose que ce Dubourg est un pseudonyme. Derrière, il y a quelqu'un qui se cache, peut-être un ancien prêtre défroqué, je n'en sais rien. Bon, il a signé du nom Bernard Dubourg. Alors, pour ce Dubourg, non seulement Jésus, mais encore Paul, sont des personnages totalement fictifs et inventés. Le premier, Jésus, à partir de Josué, successeur de Moïse. Le second, à partir de Saül, premier roi des Hébreux, etc., etc. Alors, je sais bien qu'il y a un axiome que j'ai déjà cité, je crois, hein, non posse ad esse, hein, non valitur illatio, c'est-à-dire que quelque chose ait été possible, à partir de là, la conclusion la conclusion, l'illatio, l'inférence, n'est pas forcément fondée, hein, déposée à esse non valitur illatio. De pouvoir être à être, l'inférence n'a pas de valeur. Alors, je laisse donc cette question sous forme d'hypothèse, hein. Bon, mais elle est intéressante, parce que il est curieux que l'Église, bien entendu, enfin, il est curieux, que l'Église ait toujours besoin d'une inscription historique sûre pour fonder son message. Dès le credo, on voit cette tendance ou ce tropisme ecclésial, puisque le credo nous dit à propos de Jésus « a souffert sous Ponce Pilate ». Il s'agit donc d'inscrire dans l'histoire la venue de Jésus sur cette terre. Et à partir de cela, évidemment, on comprend les excommunications de tous les mythistes. Parce que le séisme dans les esprits serait très grand s'ils avaient raison, à commencer par la relativisation de tout notre calendrier qui dit avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, etc. Que resterait-il justement de ce calendrier ? Alors, je sais bien qu'il est humain de chercher une inscription réelle, physique, pour gager ou garantir nos croyances. Ainsi, dans le christianisme oriental, on se rattache au mandylion, ou l'icône non faite de main d'homme, Akairopoyet, hein, pour attester l'existence du personnage de Jésus. Et en Occident, on se rattache au voile de Véronique, portant l'empreinte ou la vraie image, en latin « vera icona », du visage du Christ, hein, Véronique ayant essuyé la sainte face lors de la montée au calvaire. On se rattache aussi au suaire de Turin, vous voyez, hein. Mais enfin, je vous pose la question, Ridouane. S'il arrivait qu'on trouvât, lors d'une fouille archéologique quelconque, un reste du corps du Christ ou un morceau de sa croix, est-ce que la foi en sortirait grandie ? Vous savez, l'apôtre Paul, dont vous êtes vraiment friand, hein, Redouane, et ça, je vous le reconnais, hein, l'apôtre nous dit « L'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore ?» Épître aux Romains, chapitre 8, verset 24. « Et alors à quoi nous sert donc de voir les choses, puisque nous marchons par la foi et non par la vue ?» comme le dit toujours l'apôtre Paul, dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Vous voyez, Redouane, est-ce que votre foi serait confortée si on trouvait un morceau de la vraie croix, hein, ou les clous de la crucifixion? Vous voyez, Paul lui-même dit que non.
On pourra toujours remettre en question. Voilà. S'agit-il vraiment des restes de Jésus ? S'agit-il vraiment de la croix sur laquelle a été cloué Jésus ? Donc, la question du doute de l'existence ou de la non-existence du personnage historique de Jésus, je crois qu'actuellement, elle ne se pose plus. Je veux dire, il y a des chercheurs, que ce soit au CNRS, je veux dire, pas des chercheurs chrétiens, et même des gens qui se disent tout à fait athées et non-croyants, et qui attestent selon les dernières découvertes, selon les recherches, etc. À la limite, la question, pour moi, elle se pose souvent de savoir comment la transmission de l'espérance se fait. Et voilà. C'est vrai, c'est la même question qui se pose à Thomas. C'est-à-dire, Thomas, il a besoin de toucher, et c'est vrai que l'être humain, il est comme ça. Il a besoin de voir et de toucher. Et c'est de là que naît la religion. Non pas la spiritualité, mais la religion. La spiritualité n'a pas besoin de voir. La religion a besoin de toucher, a besoin d'un quorum, a besoin d'un... Voilà, ouais. D'où, j'aime bien cette expression qui dit, en parlant du baptême, c'est le signe visible d'une grâce invisible.
Oui, c'est une expression paulinienne, ça voilà. Aussi, hein. Oui. Mais moi, je crois, vous avez tout à fait raison, hein. Jésus répond à Thomas qui veut le toucher ses plaies. Tu as vu et tu as cru. Heureux sont ceux qui croient sans voir. Hein. Donc, c'est une affaire d'espérance et de foi intérieure. Et puis, s'agissant du mythe, et c'est quelque chose à quoi je tiens beaucoup. Surtout, ne confondez pas deux choses. Hein. Un scénario mental qui peut-être n'a pas de garantie historique obligée, mais qui est une vraie fiction vitale, instituante, donatrice d'humanité, structurante et très efficace dans les esprits. C'est en quoi, moi, je défends le mythe. Hein. Nous avons besoin de mythes parce que cela correspond à ce que Bergson appelait la fonction fabulatrice. Hein. Nous peuplons le néant de notre vie ou le noir de notre vie de nos fictions qui nous éclairent un peu comme la petite fille aux allumettes dans le conte d'Andersen hein, qui, pour éviter d'avoir froid et de mourir, gratte ses allumettes l'une après l'autre. Et donc nous sommes les fils de nos propres fictions qui nous illumine, nous donne lumière. Hélas, à la fin, moi je suis agnostique, évidemment, les auditeurs le savent, à la fin, il n'y a plus d'allumettes. Hein. Bon, et le conte d'Andersen se termine de façon tragique. Ou bien alors comme Scheherazade, qui pour prévenir la mort, pour ne pas être mis à mort, dans le conte des mille et une nuits, raconte tous les soirs une histoire au roi qui a le pouvoir de la mettre à mort, mais qui ne la mettra pas à mort parce qu'il est captivé par cette histoire. Donc nous parlons devant la mort, l'âme humaine parle devant la mort, comme le causeur adossé à sa cheminée, disait Paul Valéry, ou comme Scheherazade qui parle pour ne pas être mis à mort par le roi. C'est une vision agnostique, c'est sûrement ce qui nous sépare, les deux.
Je pense aussi que ce qui se démontre n'est plus du niveau de la foi.
Voilà.
Parce que si je vous dis, je laisse tomber cette lampe et elle se casse, c'est pas de l'ordre de la foi, c'est de l'ordre de la physique. Donc, il n'y a plus, je sais que ça se passe comme ça. Donc, ce qui est du spirituel est vraiment de l'ordre de la foi, c'est de l'ordre même de l'irrationnel, c'est-à-dire qui ne se raisonne pas. Je mettrai en parallèle la spiritualité et l'amour. Qu'est-ce qui fait qu'on a un coup de cœur pour cette femme, pour cet homme et pas un autre? Et si cette personne vient à nous manquer, on a l'impression qu'on se retrouve complètement vide. L'amour est, et j'aime bien cette expression, toujours de Paul, l'amour est plus fort que la mort. Et c'est quelque chose de fondamental. Et je crois que la foi, c'est ça.
Oui, c'est dans le Cantique des Cantiques. Hein. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. Mais c'est vrai que Paul, surtout dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, dit l'amour supporte tout, etc., l'agapé. Et ça tombe très bien, parce que je suis en train actuellement de réfléchir justement au sentiment amoureux, en fonction d'un futur livre. Hein. Et plus je réfléchis, plus je trouve qu'il y a un impondérable dans l'amour. On ne sait pas pourquoi. Hein. On ne sait pas pourquoi il y a telle attirance, etc. À la fois, c'est peut-être la même chose. Donc, surtout que les auditeurs se rassurent, quand je prends mythe, je ne le prends pas au sens de mystification, pas du tout. Hein. Je prends mythe au sens très fort de ce qui nous donne courage pour avancer. Hein. Parole qui nous éclaire et qui nous fait progresser. J'en ai parlé à propos de l'émission consacrée au littéraire. Je suis littéraire, moi aussi. Mais je pense que, quand bien même la construction chrétienne ne serait qu'un monument de littérature, eh bien la littérature, moi je la place très haut. La littérature, c'est ce qui nous donne figure humaine. Hein. Nous en parlerons aussi dans une émission future consacrée aux symbolo-fidéistes. Donc on peut très bien admettre le mythe instituant et ne pas le confondre avec le mythe mystificateur.
Vous êtes sur FM+, dans l'émission Des mots pour le dire.
Des mots pour le dire, toujours avec Michel Théron, petit lexique des hérésies chrétienne. Et on vient de voir une des hérésies. Je ne sais pas si je la considérerais comme une hérésie mythiste, mais plutôt comme un point de vue, hein, parce que ça va au-delà, en fait, c'est ne pas adhérer.
Oui, vous avez raison.
Un cadre.
Vous avez raison, vous avez raison. D'ailleurs, je me suis bagarré pour, avec l'éditeur, le directeur de collection, pour intégrer ce mot mythiste dans le lexique des hérésies, parce qu'en toute rigueur, ce n'est pas une hérésie.
Hein. Il est considéré comme hérétique.
Voilà, est considéré comme hérétique par l'Église catholique, d'où les excommunications. Mais je voulais bien indiquer que le mot mythe n'est pas péjoratif. Il est péjoratif dans un livre, dans le livre de Roland Barthes, mythologie, parce que qui se trouve en seuil point. Parce que là, toutes les mythologies auxquelles l'homme moderne fait crédit l'aliènent, sont aliénantes. Hein. Bon, là, il s'agit de mystification. Mais quand on prend mythe, on peut le prendre dans un tout autre sens, ce qui nous donne structure, fondement et humanité.
Alors là, une deuxième hérésie, les Nazaréens, et là, on est en plein dedans.
Voilà, alors ce mot, c'est bizarre, hein, parce qu'il pose beaucoup de problèmes, Nazaréens. On parle toujours de Jésus de Nazareth. Hein.
Les musulmans, d'ailleurs, disent les Nazaréens.
Voilà, alors ça fait... Il y a beaucoup de sens.
En parlant des chrétiens. Hein,
voilà. Ce mot peut désigner plusieurs mouvements. Alors, les premiers chrétiens sont parfois qualifiés ainsi, particulièrement par leurs contemporains juifs, ce sont des Nazaréens. Et dans ce cas-là, évidemment, il n'y a pas hérésie au regard de l'Église catholique. Hein. Mais le mot peut désigner aussi une secte judéo-chrétienne du 1er siècle, observant rigoureusement la Torah et refusant les orientations pauliniennes. On sait que Paul a séparé le christianisme naissant de l'observance de la loi. Hein. Peut-être que j'exagère en le formulant ainsi, mais enfin, il préfère la grâce, évidemment, à la loi, Paul. Hein. Et enfin, le mot nazaréen peut désigner les adeptes du mandéisme, qui en araméen se nommait indifféremment Mandaya ou Nazoraya, vous voyez. Il s'agit d'une secte gnostique qui privilégiait Jean-Baptiste comme messie au détriment de Jésus, que l'on considérait comme un faux prophète. On l'appelle aussi chrétien de Saint-Jean, c'est mandéen. Bref, quand on s'intéresse à eux, on est pris de perplexité et de vertige. Alors qu'en est-il du mot ? Le Nouveau Testament appelle indifféremment Jésus soit le Nazoréen, Nazoraios, voyez Matthieu 2, 23, soit le Nazaréen ou le Nazarénien, Nazarénos. Alors on connaît le titulus figurant sur la croix, et c'est la pancarte, l'écriteau, hein, imposé par Pilate, Jésus le Nazoréen, roi des Juifs. Son acronyme latin c'est INRI, hein, c'est-à-dire Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Voyez Jean, chapitre 19, verset 19. Alors évidemment, tout le monde a fait le lien avec la ville de Nazareth et on traduit tout naturellement Jésus de Nazareth. Et ainsi, l'inscription historique de l'histoire est garantie. Mais il n'est pas sûr du tout que ce mot signifie une localisation constatable et l'appartenance effective à une ville. Rien n'indique d'ailleurs que la ville actuelle de Nazareth corresponde à une implantation antique, ni même qu'elle ait existé à l'époque de Jésus. Et les mythistes dont je viens de parler, pour qui toute cette histoire est pure fiction, peuvent être fondés à rattacher ce nom à des mots hébreux comme « nézer », hein, qui signifie « famille », littéralement « rameau », d'après la prophétie d'Isaïe, chapitre 11, verset 1, « Un rejeton sortira de la souche de Jessé, un rameau poussera de ses racines ». On invoque aussi le mot hébreu « nazir », qui veut dire « séparé », ou bien « nazoraya », qui veut dire « mainteneur »,« observant »,« fidèle ». Ainsi, pour Bernard Dubourg, dont je viens de parler, il faut faire de tout le grec du Nouveau Testament une rétroversion vers l'hébreu. Et alors, la référence à Nazareth n'a aucune pertinence. On n'aurait pas affaire ici à de l'historique, mais à une construction toute symbolique, accordée au nom que se donnaient les communautés religieuses du temps et au but qu'elles se proposaient alors pour s'affirmer face aux autres groupes. C'est une possibilité. Cela a pu être, hein. Maintenant, je répète l'axiome de pouvoir être à être, la conclusion n'est pas toujours valable. Hein. Alors, si donc ce mot de Nazaréen renvoie non pas à une quelconque référence à un Jésus de Nazareth, personnage historiquement fixé, mais à un groupe religieux donné, de quelle nature est-il, ce groupe? Alors, on pourrait penser à des fondamentalistes juifs, de stricte observance, qui prônaient un strict retour à quelque chose de perdu. Alors, que va-t-on dire, alors, si Jésus lui-même en faisait partie, vu la façon dont les évangiles encore le nomment? Le scénario de la novation christique radicale, d'une rupture radicale du christianisme avec le judaïsme, qui repose principalement, je le répète, sur la construction et la prédication de l'apôtre Paul, perdrait alors tout fondement. Et en ce sens, Paul n'aurait plus aucun droit à être appelé, comme le disent les Actes des Apôtres, chef de la secte, littéralement de l'hérésie, des Nazoréens. Hein. Actes des Apôtres 24:5. Paul est dit protostates teston nazoraion aireseos. Vous voyez, vous avez le mot hérésie, hein. Chef de l'hérésie des Nazoréens. Bon, alors, vous voyez, quant au mot chrétien, on ne le sait pas assez, mais en grec christianoi, en latin christiani, ce mot chrétien pour désigner les disciples de Jésus fut utilisé pour la première fois à Antioche, selon ce que disent les Actes, chapitre 11, verset 26, et ensuite s'est imposé. Alors, on s'accorde à voir dans les Nazaréens une secte judéo-chrétienne, un peu comme celle des Ébionites, maintenant l'enseignement de Moïse à l'égal de celui de Jésus. Et on les identifie aujourd'hui surtout à l'église primitive de Jérusalem, dite petite église, ou église de la circoncision. Et alors on rapproche souvent le sort historique des deux mouvements. Ces judéo-chrétiens se trouvèrent dans une position très inconfortable, pris entre le marteau et l'enclume, pour ainsi dire. D'un côté, les nouveaux chrétiens d'obédience paulinienne, faisant partie de ce que l'on appelle le troisième genre, tertium genus en latin, et de l'autre, les pharisiens réformés, constituant désormais le judaïsme rabbinique. Cette voie était sûrement sans issue, hein, et certains réfugiés au-delà du Jourdain, c'est-à-dire dans l'actuelle Jordanie, formèrent un terreau de langue araméenne qui a alimenté l'islam. Alors, ces Nazaréens avaient-ils un évangile à eux, comme on le dit parfois, appelé indistinctement évangile des Nazaréens ou évangile des Hébreux? Est-ce à lui que fait référence l'apôtre Paul dans son épître aux Galates, hein? Et je vais citer ce passage, vous voyez, Redouane, non pas par vos provocations, mais pour vous titiller un petit peu. Hein, le passage de Paul, il ouvre une ère nouvelle où on peut parler d'intolérance. Vous me direz ce que vous en pensez, Redouane. Voici ce que dit Paul. « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, hein, donc il parle de l'évangile des Nazaréens ou évangile des Hébreux, hein, donc si cela se produisait, qu'il soit anathème, voyez, nous l'avons dit précédemment et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, sous-entendu de moi, qu'il soit anathème. Hein. Donc il s'agit de l'Épître aux Galates, chapitre 1, versets 6 à 9. Anathema, anathema esto, qu'il soit anathème. En fait, évidemment, cet évangile du Christ n'est rien d'autre que l'évangile de Paul au sujet du Christ, puisqu'il dit « celui que nous vous avons annoncé ». Et l'ange descendu du ciel me semble être une prémonition de la façon dont le Coran, plus tard, a été rédigé, puisque c'est un ange qui a transmis la révélation au prophète Mohammed. Hein. Mais en tout cas, ce qu'il soit anathème résonne sinistrement, puisqu'il est gros de toutes les excommunications et persécutions à venir. Alors, je m'excuse si je vous choque, Redouane, s'agissant de Paul. C'était un personnage qui avait un très grand talent orateur. Hein, là, tout le monde le reconnaît. Il était entièrement pénétré de ses idées, il a manqué parfois de nuances. Hein.
Oui, et puis il est fidèle à lui-même.
Voilà.
Il a toujours été un persécuteur, hein, donc il a fait amende honorable dans sa conversion, c'est-à-dire il a d'autres perspectives, d'autres horizons spirituels, mais néanmoins, c'est toute son humanité. D'autant plus que cette épître aux Galates commence déjà par presque des insultes, c'est-à-dire une interpellation très forte. Hein. Galates stupides, c'est une épître qui. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Donc. Mais en même temps, elle est révélatrice des tensions de l'époque.
Absolument.
Et c'est une constante aussi. C'est le moment où, petit à petit, il y a un cadre qui s'érige autour de la révélation et de la nécessité de mettre par écrit, effectivement. Et on le voit, il ne faut pas dire « je suis d'Apollos, je suis de ceci, de cela », chacun tirant. À plusieurs reprises, il revient. Et je pense que là, il y a une sorte d'agacement, d'énervement très paulinien.
Oui. Chacun a ses défauts. Qu'est-ce que vous voulez ? Personne n'est parfait.
Hein. Non.
Personne n'est parfait.
Heureusement. Hein.
Heureusement.
Vous êtes sur FM+, dans l'émission Des mots pour le dire.
Des mots pour le dire, toujours avec Michel Théron, après les mythistes, les nazaréens. On sent que là, il y a des coups de boutoir sur la révélation, sur la personne du Christ. Mais néanmoins, je pense que c'était une manière aussi de remettre en question, rien n'est acquis, rien n'est facile. Et c'est un débat, et je pense qu'il faut s'honorer de ce débat. Là, actuellement, par exemple, on crée l'anathème du fait qu'une ministre a dit qu'elle était pour la consommation de cannabis, il fallait légaliser, enfin plutôt légaliser le cannabis, donc il y a des cris d'effroi, on jette l'anathème, mais il me semble que c'est se tromper de débat de société, c'est un débat de société, il faut l'ouvrir et l'ouvrir de manière paisible, sans être comment dirais-je manichéen, hein, c'est-à-dire voilà. Les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Et je crois que toute la chrétienté s'est faite de ces débats-là.
Tout à fait. Il ne faut pas pratiquer la restriction mentale et occulter comme tabou tel ou tel sujet.
Et voilà, justement, ben là on va aborder les Nestoriens qui ont participé à l'élaboration de la théologie chrétienne, puisqu'ils posent eux aussi des questions fondamentales et auxquelles les confessions de foi successives vont d'ailleurs poser une réponse.
Voilà, ou prétendre une réponse.
Il n'y a pas de réponse définitive, surtout dans une confession de foi.
Oui, tout à fait. Ces Nestoriens sont donc les sectateurs de Nestorius, qui faisait, lui, une séparation radicale entre la nature divine et la nature humaine de Jésus-Christ. Alors, le remarquable, c'est que l'hérésie nestorienne, enfin, je prends hérésie au sens que j'ai dit, le choix, a perduré jusqu'à nos jours. Et il existe encore une petite église nestorienne indépendante dont les membres vivent principalement en Irak. Alors c'est ce que j'ai écrit dans mon livre qui est paru en 2005. Peut-être que ça a changé, hein, je ne sais pas. Peut-être que...
Non, il y a toujours une communauté, une petite communauté malheureusement parce que suite aux événements d'Irak, cette communauté a éclaté. Il y a eu beaucoup de personnes qui se sont exilées puisque les chrétiens en général cardinal était en danger, et j'ai eu l'occasion de rencontrer une membre, une dame, qui était réfugiée en Suisse lors d'un récent voyage en Suisse.
C'est vrai que tout bouge.
Et d'ailleurs, la confession de foi, enfin le Notre Père, elle le dit en araméen.
Tout à fait.
Toute la liturgie est en araméen.
Tout à fait. Et je pense aussi à ce qui bouge en Égypte à propos des Coptes, qui sont des monophysites, c'est-à-dire d'une orientation opposée à celle des Nestoriens, justement, comme nous allons le voir. Mais c'est vrai que tout ce que je dis sur le plan historique est toujours susceptible d'évolution et de changement. Il faut prendre les choses. Je prends les choses à un point précis, mais depuis les choses ont changé.
Alors c'était assez intéressant parce que quand j'étais en Suisse, il y avait une protestante dans cette paroisse protestante qui lui demandait mais vous êtes chrétienne depuis quand?
Oui.
Elle dit, depuis 2000 ans.
Oui, tout à fait. C'est une très bonne réponse. Alors Nestorius était un moine chrétien né en Syrie. Il devint évêque de Constantinople à Cansa en 428. Alors comme Arius, nous avons parlé des arianistes, Nestorius ne pensait pas que Jésus était un dieu depuis l'origine, avant tous les siècles, incarné ensuite occasionnellement et provisoirement dans un homme, avant son retour au ciel, son lieu d'origine, selon ce que dit le symbole de Nicée. Le concile de Nicée s'est tenu en 325. Donc Arius a été défait, mais enfin l'orientation arianiste a perduré. Eh bien, Nestorius était plutôt du côté d'Arius. Il disait que Jésus, en tant qu'homme, n'avait fait que participer de la divinité à partir du moment où il fut habité par elle. S'étant étroitement uni à elle, ou bien elle à lui, dans sa naissance et dans sa mort. Il n'y avait rien de définitif par conséquent. Alors pour résumer l'intuition nestorienne, Jésus naissant ou mourant, ce n'est pas un dieu qui naît ou qui meurt, c'est un homme qui naît ou meurt, et qui alors participe de Dieu, et auquel à ces occasions Dieu s'unit. Alors on pense à ce que professent les adoptiens, j'ai parlé des hérésies adoptiennes, de l'hérésie adoptienne ou adoptianiste, selon lesquels, ces adoptiens, selon lesquels Dieu s'unit à Jésus ou Jésus à Dieu lors de certains moments décisifs, comme par exemple celui de son baptême ou celui de sa transfiguration. Alors il s'agit là d'une intronisation, d'une filiation par adoption. Donc, il faut bien distinguer le Jésus fils de Marie et le Jésus fils de Dieu. Ils ne se situent pas au même niveau d'expérience. Alors, il y a donc en Jésus deux natures bien séparées, l'une qui est humaine, comme celle de chacun d'entre nous, et l'autre qui est divine, et qui le fit participer à certains moments cruciaux, à plus grand que lui, à s'exaucer en quelque sorte, c'est-à-dire à s'élever au-delà de lui-même. Mais ces deux natures coexistent et ne se fondent pas l'une dans l'autre. Quant au dogme catholique, au contraire, il professe qu'entre père et fils, il y a communauté de substance. C'est la fameuse consubstantialité, en grec homo ousia, qui fut affirmée au premier concile de Nicée dont j'ai parlé en 325. Par la suite, on a dû convenir en Église, devant d'évidentes difficultés présentes dans les textes eux-mêmes, qu'il y avait bien en Jésus-Christ deux natures, l'une humaine, l'autre divine, mais alors, pour lutter précisément contre Nestorius, on les a dites hypostasiées, H-Y-P-O-S-T-A-S-I et accent aigu E-S, hypostasiées en une seule personne. C'est ce qui a été affirmé au concile de Chalcédoine en 451, qui a définitivement fixé le dogme, mais à mon avis, sans éclairer exagérément la question. Et ma formulation est un euphémisme, vous voyez. Voici ce que nous devons croire selon le concile de Chalcédoine relativement à Dieu. C'est une seule substance, en grec « ousia », réparti en trois hypostases, en grec hypostaseis, le Père, le Fils et l'Esprit. La deuxième hypostase, le Fils, assumant, du fait de l'incarnation, de ce que l'on appelle l'union hypostatique, les deux natures divines et humaines. Alors, c'est une très belle invention que cette hypostase anti-nestorienne. Mais enfin, méfions-nous des mots bien savants, ils peuvent en imposer, hein, surtout quand on ne connaît pas leur sens. Paul Valéry disait qu'il y a des mots qui ont plus de valeur que de sens, hein. Par exemple, le mot liberté, etc., bon ben, ça a une très grande valeur, ça fait bouger les gens, mais si on réfléchit au sens, souvent, on reste un peu perplexe, hein. Alors, littéralement, une expression comme substance hypostasiée, c'est une pure tautologie, puisque le mot grec hypostase est exactement l'équivalent du mot latin substance. C'est le même mot, ce qui se tient en dessous. Donc, cela revient à dire, substance hypostasiée, ça revient à parler de substance substantifiée, hein. Mais ainsi traduite, bien sûr, l'expression perd de son aura, et cette fameuse hypostase qu'on répète si souvent, le prestige dont on la part. Hein. En fait, ce mot, dans le Nouveau Testament, a le sens simple de fondement. Par exemple, on lit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1, « La foi est le fondement, en grec hypostasis, de ceux qui espèrent. Hein. » Ce sens restreint est très clair, il est très clair. Mais que veut dire ce mot s'agissant de Dieu? Que signifie l'hypostase de Dieu? Dieu a-t-il un fondement? Est-il par rapport à lui dans un état de dépendance? Est-ce que ce n'est pas là le divisé, vous voyez, hein? Bon, alors on dit que Christ est par rapport à Dieu, resplendissement de sa gloire, image de sa substance, littéralement empreinte de son hypostase, hypostasis. C'est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 3. Mais est-ce que c'est bien clair, vous voyez? Alors, sur cette invention théologique de l'hypostase, Calvin a noté de façon très pertinente, « Cette forme de parler fut trouvée et mise en usage pour abolir la rêverie de Nestorius. » J'aime bien cette expression, la rêverie de Nestorius, vous voyez? Mais est-ce qu'on n'a pas remplacé une rêverie par une autre, hein, une seule substance répartie en trois hypostases, alors que c'est le même mot, vous voyez. Là, on est, vous savez, à l'époque scolastique, Redouane en parlait de souffle de la voix, on le disait en latin, flatus vocis, c'est-à-dire on agite de l'air avec les organes de la voix. Bon, moi, je ne suis pas du tout convaincu par cette, par les conclusions du concile de Chalcédoine. Et Monsieur Gounel, donc professeur de théologie, a étudié de très près les conclusions du Concile de Chalcédoine et il m'a confié en privé qu'elles n'étaient pas claires du tout. Et il les a étudiées beaucoup plus que moi. Moi, je connais simplement ce qu'en disent les traités. Donc voilà, je pense que on n'a rien éclairci. Alors, plus Nestorius répétait sa rêverie, pour prendre l'idée de Calvin, plus son adversaire, qui était Cyril d'Alexandrie, mettait l'accent au contraire sur la divinité de Jésus, jusqu'à autoriser l'hérésie inverse, hein, qui affirmait la nature essentiellement divine de Jésus, celle des monophysites, vous voyez. Alors, plus Cyril insistait sur le monophysisme, qui est l'hérésie des Coptes, par exemple, hein, plus Nestorius insistait sur l'humanité de Jésus. Par exemple, il refusait de dire que Marie était la mère de Dieu, comme le disent les chrétiens orthodoxes, en grec théotokos, mère de Dieu. On rapporte que Nestorius aurait dit « Jamais je n'appellerai Dieu un enfant de 3 mois ». À Marie, il ne reconnaissait que le nom de Christotokos, c'est-à-dire mère du Christ ou mère du Messie. Hein. Alors Nestorius fut condamné par deux conciles, à Rome en 430 et à Éphèse en 431. Et toute la population d'Éphèse exulta en retrouvant sa Marie mère de Dieu, parce qu'il y avait déjà de la mariolatrie chez les Éphésiens, vous voyez. Hein. Donc on a préféré mère de Dieu à mère du Christ. Alors Nestorius fut déposé de son siège, il fut emprisonné, et il mourut en refusant d'abjurer son choix. Hein. Sans doute avait-il ses raisons, parce que, bon, Marie était-elle une déesse pour avoir enfanté un dieu selon le schéma païen classique de Zeus s'unissant à une mortelle, hein. Alors on dit que le verbe s'est abaissé, s'est dépouillé ou s'est vidé. C'est la kénose que l'on a dans l'Épître aux Philippiens 2:7 ou dans Colossiens 2:15, jusqu'à s'incarner à un enfant. Mais qu'est-ce que ça veut dire enfant ? En latin, enfant veut dire qu'il ne parle pas, infants. Donc, où voit-on le logos, c'est-à-dire la parole, dans la crèche où est né un enfant ? Et comment Marie peut-elle être dite à la fois mère et fille de son fils ? Bref, on est dans un, dans un tissu de problèmes insolubles. Et je conclurai en disant que, il me semble que c'est Paul, qui a dit la seule chose intéressante, il a dit que Jésus était un médiateur, en grec mésithès, entre Dieu et l'homme, voyez. Donc, voici ce que dit Paul, 1er épître aux Timothée, chapitre 2, verset 5, « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Christ Jésus. » Et je pense qu'à cette formulation, Nestorius, qui vivait bien plus tard, aurait pu souscrire entièrement. Donc Jésus est une sorte de pont, de passage, de passerelle, de médiateur, mésithès, et c'est une formulation, je dirais, œcuménique avant la lettre. On la retrouve en maintes autres lettres de Paul, Galates 3, 19, 20, Hébreux 8, 6, etc. Elle aurait pu réunir l'assentiment et des juifs auxquels Paul s'adressait, et plus tard des musulmans. Simplement, on aurait dû enlever un seul médiateur, un médiateur. Reste un médiateur, reste un homme, Christ Jésus, comme Mohammed, le prophète, est un passeur, un prophète parlant au nom de Dieu, mais ne s'identifiant surtout pas à Dieu. Et alors, on dit que ce fut un moine nestorien qui fit connaître le christianisme à Mahomet, ce qui expliquerait le caractère nestorien de ce que dit le Coran sur Jésus. Mais alors, cette idée modérée ou nuancée de médiation s'est perdue à mesure qu'on a idolâtré le personnage du Christ jusqu'à le confondre avec Dieu lui-même. Alors, je crois, vous voyez, Redon, c'est une idée qui revient souvent à mon esprit, que le succès de l'islam vient sans doute de la lassitude ou de l'irritation causée par toutes les querelles antérieures dont nous venons de parler, querelles byzantines ou autres, et son succès, il s'est répandu comme une traînée de poudre, vient de la simplification évidente qu'il a portée. Il n'y a qu'un Dieu, Mohammed et Rasoul, le prophète, vous voyez, ou le médiateur, si vous voulez. Les gens en avaient assez, les esprits étaient fatigués de toutes ces querelles.
Merci Michel, effectivement c'est un vaste sujet sur l'islam. Est-ce que pour certains même disent que l'islam c'est le cinquième évangile. Effectivement, comme il y a un évangile qui s'adresse aux Hébreux, un évangile qui s'adresse aux païens, un évangile qui s'adresse aux Grecs, ça aurait pu, mais ensuite les sensibilités émanant du prophète Mohammed, effectivement extrêmement marquées, par la pensée nestorienne, puisque son oncle était prêtre chrétien et sensiblement nestorien. Ça fait partie des débats. Mais c'est un regard aussi extérieur à l'islam, parce qu'un musulman
Je pense qu'il reconnaît Jésus comme prophète, le Coran.
Prophète, comme un homme, considérant justement que les chrétiens se sont égarés, ont associé, donc la question de l'association sur la Trinité. Ouais. Mais on aura l'occasion de revenir justement sur cette question-là. Oui. Merci, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, on n'a pas vu le temps passer, mais voilà, dans une semaine, c'est vite venu. Bonne fin de semaine. Et on se retrouve, même longueur d'onde, même heure, jeudi. Au revoir.
Au revoir à tous.
Des mots pour le dire, une émission présentée par Redouane Esmenti avec Michel Théron.